Fait au mois d'août lors de leur dernière confrontation, puisque Schroef avait écrasé alors Tsonga sur le score de 6-2-6-2. Donc 6-2 à nouveau pour commencer cette partie, mais et chez lui, devant son public. Il a remporté le tournoi en 2008, il a fait une finale en 2011, on ne la lui fait pas comme ça. Et donc il s'est rebellé dans la deuxième manche et il a fait le break, le manceau. Il mène 3-2 et il va servir dans quelques instants pour confirmer et essayer de revenir au score.
Éric Mamrut pour nous faire vivre ce tournoi en direct de Paris, où il est pile 18h10.
Radio G 101.5 FM.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ici l'Oreille Curieuse sur Radio G. Bienvenue dans la quotidienne des actualités culturelles et locales. Nous sommes jeudi et un jeudi sur deux, on plonge au cœur du cinéma avec des toiles plein les yeux, la chronique proposée et réalisée par Margot. À quel point les esprits et autres fantômes ont-ils influencé son choix sur le film ce soir? Vous le saurez en deuxième partie d'émission. Car d'abord, nous allons dans un nouvel univers, celui du conte « Les gardiens de la Terre ». Il a été écrit et dessiné à quatre mains. Ce premier tome va nous emmener à la rencontre d'un Melog, si je le prononce bien, qui est une créature qu'on va rencontrer ensemble. Et vous pouvez soutenir la publication de ce conte avec un financement participatif. On va en parler dans cette première partie d'émission. Ici Annelie au micro, à tout de suite. Commencez Margot, bonsoir.
Bonsoir Annelie, bonsoir à tous.
Très formel, on se retrouve plutôt en deuxième partie d'émission pour la chronique.
Absolument, je vous propose de passer Halloween sous la couette.
C'est très bien, en regardant un bon film. Et pour cette première partie d'émission, on va parler des gardiens de la Terre. Et je reçois Célia Coutan qui est autrice. Bonsoir Célia.
Bonsoir.
Et Nikita Daguerre qui est illustrateur. Bonsoir Nikita.
Bonsoir Ali, bonsoir tout le monde.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir trouvé un petit moment pour venir dans cette émission. Alors vous avez écrit et dessiné et conçu aussi ce conte, Les gardiens de la Terre. Le premier tome s'intitule Le Melog et la turquoise magique. Et vous êtes en train de le financer pour financer cette première édition, cette première impression via la plateforme zest.com.
Oui, c'est ça.
Je mettrai tout en ligne sur la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G.
Super.
Car le site fonctionne. Et il y a aussi des lectures pour découvrir le livre, on va voir ça ensemble. Et j'avais envie qu'on plonge tout de suite un peu dans l'histoire du livre et que vous nous racontiez un petit peu de quoi ça parle. On suit deux personnages, deux enfants.
C'est ça.
Exactement, on suit deux enfants, Aya et Eden, qui vont partir à l'aventure. Et à travers leur rencontre, donc, ils vont rencontrer des personnages hauts en couleur, assez magiques et mystiques. Et il y a un peu deux histoires en fait en parallèle. Une histoire qui est assez lisible, qui va être à travers ces rencontres un lien entre la terre et les hommes qui va être brisé. Et ces deux enfants, par ces rencontres, vont pouvoir reconstituer ce lien. Et la deuxième partie, plus sous-entendue, ça va être ces deux enfants qui vont apprendre à grandir et avoir confiance en eux à travers toutes ces rencontres.
Et ce conte, vous l'avez imaginé dans un univers qui n'appartient qu'au conte, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu, nous dire où est-ce qu'on va se retrouver avec les gardiens de la Terre?
C'est un univers très minéral au début, parce qu'on a le Melog, ce personnage qui est totalement mystique, qui est né de la terre. Et donc le Mélog, il vit, il est nulle part, mais en même temps, il vient de la terre. Donc on l'imagine dans la terre, c'est très minéral, il y a des grottes, beaucoup de grottes au début. Ensuite, on commence à sortir, on est dans des paysages très naturels, très vastes. Nous, on adore le voyage, je pense que ça inspire.
Ça, c'est vrai, voilà. Ça a influencé le livre.
Beaucoup. Ouais. Donc, on se retrouve dans un paysage qui paraît très réaliste au début, et petit à petit, on plonge dans l'onérisme, le fantastique, avec un petit passage par la SF quand même. Voilà, donc c'est vraiment notre bébé. C'est en auto-édition, donc on a fait le choix vraiment de tout faire de A à Z, sauf l'impression. Et du coup, voilà pourquoi on passe par le crowdfunding, le financement participatif.
Pour la dernière étape, pour avoir l'objet entre les mains.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Et ce récit, on va suivre deux enfants. Qui s'adresse ce conte ? Est-ce que c'est un conte pour la jeunesse plutôt ? Est-ce que c'est un conte pour tous les publics ? Comment vous l'avez imaginé ?
Alors, c'est un conte qui est aussi bien pour les enfants que pour les parents, pour les adultes. On n'a pas voulu limiter ça qu'aux enfants. On voulait que ça soit assez ouvert. Nous qui adorons les histoires également et qui adorons les contes, on voulait que tout le monde puisse plonger dans l'histoire. Et dans ce conte, il y a énormément de nous. Donc voilà, c'est une histoire qui est très ouverte, avec également un message qui passe à l'intérieur de, ce livre, que ce soit sur l'environnement, sur justement apprendre à se connaître soi-même. Enfin, voilà,
c'est... Et écouter les enfants.
Écouter les enfants aussi.
Margot, tu avais envie de réagir ou tu...
Non, je m'interrogeais pour savoir quelle place prenaient les illustrations en fait, dans le projet. Est-ce que c'était plutôt un univers de BD ? Est-ce que c'est un texte illustré ? Enfin, comment est-ce que vous avez dessiné en même temps qu'écrit ? Comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors, oui, alors au niveau de la forme, on parle de conte, de livre de conte, mais ça pourrait être aussi bien un roman illustré au final. L'image et le texte, la place déjà dans le livre, c'est 50-50. C'est vraiment très fourni en images. Il y a 7 mois de travail sur l'illustration, donc c'est très abouti, c'est très poussé. Et au niveau de la construction, bah, je vais peut-être te laisser raconter, Célia. Parce que
tout a commencé donc, il y a à peu près 7 mois. En rentrant à la maison, j'ai retrouvé Nikita sur son écran, donc en train d'illustrer une image. Et il était plongé dedans, et quand je l'ai vu, ça changeait vraiment de tout ce qu'il avait l'habitude de faire, comme il était un peu plus à la base sur tout ce qui était peinture à l'huile. Et quand j'ai vu cette image, je suis restée assise devant l'ordinateur à regarder. Et il y a tout un tas de choses qui sont sorties. Et j'ai commencé à lui raconter une histoire. Et de là, en fait, il y a eu un jeu de ping-pong entre lui et moi qui s'est créé, du texte à l'image. Donc on s'est influencés tous les deux. Et au fur et à mesure, bah, on a un nouvel univers qui est né, l'univers des Gardiens de la Terre et du Mélog. Et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place ce livre de contes.
Donc presque par hasard. Pas tout. Alors, à fait par hasard.
On va dire que c'était une illustration qui était très inspirante. Au début, voilà, on n'avait pas forcément l'idée de créer un livre. Mais au fur et à mesure que l'histoire et l'image se sont multipliées, là on s'est dit, bah, y a de quoi créer cet univers et créer du coup le livre de contes.
Et puis ce n'est pas non plus notre première création commune, hein, parce qu'on a déjà créé des jeux de plateau ensemble, diverses expositions, diverses choses, on fait plein de choses ensemble, et c'est quelque part assez introspectif. D'ailleurs, dans les deux personnages, un petit garçon et une petite fille, on retrouve les caractères, on s'en rend compte maintenant en fait seulement, qu'il y a vraiment beaucoup de nous, et c'est assez introspectif pour nous deux. C'est notre goût.
Et en fait, en vous écoutant, je me demandais si vous aviez d'autres sources d'inspiration. En fait, moi, ça m'évoque Le Seigneur des Anneaux de Tolkien par les noms des univers dont vous parlez, ou pas du tout
Alors, ouais. Par rapport... Moi, je prends par exemple le personnage du Mélog. En fait, comme il s'est avéré que c'était un personnage qui était fait de terre et de pierre, ça me faisait directement penser au golem. Sauf que dans la tradition juive, le golem, ça va être un être qui est créé, qui est façonné, auquel on va lui donner un ordre, entre guillemets, ou une mission. Nous, on voulait vraiment que ça soit un être qui soit complètement autonome, créé par la terre, et qui ait sa propre liberté, et qui interagisse avec les hommes, mais par sa propre volonté. Donc voilà, il y a des liens comme ça qui se font, même dans les noms, Aya et Eden, enfin voilà, mais...
La première source d'inspiration, c'est la contemplation de la nature, pour ma part, et Célia aussi, je pense. Voilà. À la base, moi, c'est le paysage qui me botte le plus. Et petit à petit, il y a quand même des êtres humains qui commencent à arriver dans cette création. Voilà, mais la grotte, en fait, en tant qu'illustrateur, je la vis dans ma petite chambre atelier, en fait.
Je ne veux même pas savoir à quoi ressemble l'atelier en vrai chez vous.
Il n'y a pas encore de stalactites, mais voilà. Non, voilà, et puis c'est de la découverte, c'est de la recherche aussi sur les paysages, sur tout ce qui est naturel, toutes les textures, les matériaux comme la géologie, la biologie, enfin voilà, c'est l'exploration pour nous aussi dans la création, quoi. Voilà.
Et pour revenir au processus de création du conte Les Gardiens de la Terre, donc Célia, vous êtes plutôt à l'écriture, Nikita à l'illustration, ça veut dire que toutes les choses se sont faites en même temps, en se suivant l'une l'autre, parce que souvent on imagine un texte, puis l'illustration vient après. Donc là, c'est vraiment un travail de co-auteur sur chaque étape.
Exactement, oui, oui. En partant du coup de l'image à la base et le texte qui s'est construit. Donc en fait, c'était vraiment, comme je disais au départ, un jeu de ping-pong. Une image qui a inspiré un texte, le texte que j'ai raconté, enfin l'histoire que j'ai racontée qui a réinspiré la suite d'illustrations, qui a inspiré ensuite de nouveau un texte. Et ça a été vraiment un tout global, en fait.
Puis on vit ensemble, donc c'est quand même plus simple quelque part.
C'est plus facile.
Et je pense qu'on s'est trouvé sur des choses comme ça, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que c'est notre bébé. Bon, il y a 7 mois, il est un peu prématuré peut-être, mais...
C'est un bébé créatif.
C'est un bébé, voilà. Il voulait sortir très vite. Mmh. Voilà. Yame unun beirei Tan gentio bruneto Cum lacin reencontre laute dio Suleto Ero che nei tambero che giù che in buleri Perachero bergero si era besun muri Sus vei stan clare Dus diamants au miei de sen candelas era qui nei tambero che giù che in buleri per acchero bergero si era besogno
passés, hommes, femmes et enfants rendaient hommage à un gardien issu de la terre elle-même. On l'appelait Mélog.
Par un soir de pluie, deux enfants explorent la grotte qu'ils ont découverte sous un vieux chêne.
Grâce à son briquet, Aya s'enfonce dans le noir, bien plus vite que son ami. La grande et belle Éden. Concentré sur la flamme qui s'agite de plus en plus, le jeune garçon allonge le pas, jusqu'à ce qu'à pleine vitesse, son front percute l'implacable dureté de la roche.
L'obscurité l'engloutit.
Aïe ! S'écrie-t-il en reprenant ses esprits. Accroupi, la tête entre les bras, Aya appelle Eden.
Pas de réponse. Depuis combien de temps est-il inconscient ?
Les yeux clos par la douleur, le jeune garçon se relève lentement, puis se remet à avancer. Soudain, le sol humide se dérobe sous ses pieds. Par réflexe, il écarte bras et paupières.
Un paysage d'une éclatante beauté s'offre à lui. Au-dessus d'un affleurement rocheux, il aperçoit une lumière turquoise. Intrigué, il s'engage sur le chemin jalonné de stalactites, de pierres duveteuses et de mille autres curiosités. Enfin, il atteint la lueur bleutée.
Oh ! Une pierre ! Elle est si brillante qu'il ne peut s'empêcher de la saisir. La clarté se répand alors dans tout son corps, s'emparant de ses pensées, puis descend jusqu'à ses orteils pour se propager aux confins de la grotte.
Pris de vertige, le jeune garçon s'allonge sur un tapis de mousse. Les yeux fermés, il reconnaît maintenant chaque bruit, chaque odeur et chaque mouvement dans la grotte. Mais bientôt, ce monde merveilleux commence à s'effacer.
Le Mélogue veille sur lui.
C'était un extrait du conte Les Gardiens de la Terre, précédé du titre Yamei Yo Non Verei, que je prononce très mal, de Kokana. Et vous êtes à l'écoute de Radio G et de son Oreille Curieuse. Nous sommes ce soir avec Célia Coutan, autrice, et Nikita, Daguerre, illustrateur, pour parler donc de ce premier tome des Gardiens de la Terre, un conte que vous avez écrit, illustré. Et il y aura peut-être d'autres tomes. Et peut-être juste pour revenir sur l'extrait qu'on a entendu, c'est pas vous qui lisez cet extrait.
Tout à fait, non. Ce n'est pas nous. On écrit, on illustre, mais alors par contre, pour lire le conte, après c'est autre chose. Donc c'est l'association de la Compagnie des Histoires de la Lampe, hein, basée à Saint-Sébastien, sur Loire, sud Nantes. Et c'est Noémie, une de mes élèves, et sa maman conteuse du coup de l'association, Sylvie. Voilà.
Et ça nous a permis de plonger au cœur de l'univers du conte. Vous disiez, vous avez écrit, dessiné. Est-ce que peut-être vous pourriez essayer de décrire les images qu'on va voir du conte ? Ça, c'est pas si facile, mais c'est des choses assez précises. Il y a beaucoup de couleurs.
Oui, il y a beaucoup de couleurs.
C'est un univers très, très coloré sur lequel il va y avoir beaucoup de végétation. Je vais parler par exemple de la première image où en fait on voit deux enfants de dos qui vont rentrer dans un arbre. Ça va être justement l'entrée de la grotte où ils vont pouvoir rencontrer le Mélogue. Les illustrations sont très détaillées. Il y a beaucoup de détails et comme Nikita le disait tout à l'heure, c'est assez minéral. Donc c'est vraiment une inspiration de la nature, comme on aime.
Mais pour créer un univers qui n'appartient qu'au livre, qui est assez merveilleux aussi.
Assez fantastique, exactement.
J'aime bien onirique. J'aime bien onirique, vraiment. Parce qu'on est vraiment dans le monde du rêve aussi, au bout d'un moment. On est toujours entre le conscient, l'inconscient. Il y a les moments où on s'éveille, on se rend compte que tout n'est pas forcément comme on le pensait jusqu'à présent. C'est beaucoup sur les sensations aussi, les images, des choses fraîches, des petits rayons de soleil qui nous réchauffent matinaux. Il y a vraiment une sensibilité sur les périodes de la journée, sur les éléments qui nous entourent. C'est très sensible.
Ouais, sur la lumière qui est très présente également, et les éléments, notamment le vent qui est très présent dans l'histoire.
Est-ce que vous pourriez nous décrire ou nous parler rapidement des deux personnages, du coup, les deux enfants ?
D'accord. Alors, il s'agit d'un petit garçon, Aya, et de son ami, Eden. Aya, lui, c'est un petit garçon assez timide au début. Il a toujours avec son t-shirt bleu turquoise, bleu vert turquoise. Et voilà, son ami Eden, elle, physiquement, elle a les cheveux roses, elle est assez exubérante, elle prend tout de suite les devants dès qu'il y a une action à faire. Aya est un peu plus contemplatif, le garçon est un peu plus contemplatif, et on dirait peut-être que c'est quelque part un catalyseur, et Eden un prophète. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si tu peux expliquer le concept.
Oui, alors en fait Aya va être un peu plus introspectif peut-être dans son personnage. Mmh. Il va peut-être avoir moins, enfin pas moins d'écoute, mais ça va être peut-être un peu plus difficile de percevoir les choses autour de lui. En fait, ça va être Eden, la petite fille, qui va être un peu le déclencheur des actions. En fait, voilà, ça va être ce rôle-là qu'il y a entre les deux enfants. Aya, c'est vraiment celui qui va vivre, qui va apprendre à gagner confiance en lui en trouvant donc, la fameuse turquoise et le Melog. Et Eden, ça va être celle qui va un peu le guider, d'où le côté prophète en fait, de cette jeune fille.
Donc là, tout existe dans ce conte, les images, le texte, il ne reste que la dernière étape, celle de l'impression, de la diffusion. Et c'est aussi pour ça qu'on vous reçoit ce soir, c'est que tout le monde peut vous aider à mener cette dernière étape avec un financement participatif. Vous avez imaginé des contreparties un peu rigolotes aussi parfois, on peut avoir des sachets de graines avec son édition.
Tout à fait. On dit merci à Radie et Capucine d'ailleurs, au passage. Qui nous permettent d'avoir des contreparties intéressantes et de qualité aussi, qu'on n'aurait pas pu avoir sans ces partenariats. Donc merci à eux. On a d'autres contreparties, bien sûr le livre qui est quasiment en fait une prévente. Hein. C'est vraiment limite pas un don, en fait, c'est vraiment une prévente. On a aussi des tirages d'art. On va avoir...
Le livre qui va être fait avec une reliure cuir, donc pareil, qui est fait par une partenaire, l'établi du livre, qui va nous faire des, voilà, une version un peu plus de luxe, entre guillemets.
Une artisane relieuse, Claire Masserand. Voilà.
Ouais, il y a plusieurs niveaux pour vous soutenir et plusieurs contreparties qui sont assez chouettes. Tout se passe via la plateforme zest.coop/lesgardiensdelaterre avec un tiret entre chaque mot. Mais le plus simple, c'est d'aller voir sur la page du podcast de l'émission, je vais mettre un lien. Ce sera plus facile. Et il y a aussi des moments où vous faites découvrir ce livre-là avec des lectures. Peut-être juste quelques mots à ce sujet aussi. Il y en a une samedi.
Oui.
Exactement. Et qui est justement faite par Sylvie et Noémie de la Compagnie des Histoires de la Lampe. Donc ça se trouve, les histoires sont lues donc, à notre atelier chez nous sur Saint-Sébastien-sur-Loire. Et on aura trois lectures de contes, dont Les Gardiens de la Terre. Notre bébé.
Il y aura aussi d'autres contes. Nikita, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, sinon, c'est pas tout. On fait beaucoup de soirées contes, en fait. on en fait aussi en librairie. Là, ça va être plus sur Nantes, du coup. Ça va être à la librairie Le Loup. Librairie gourmande, on peut manger, s'installer, prendre un bouquin. Et là, il y aura une soirée contes. On aura aussi une soirée contes à la librairie des Lucettes, sur Nantes. Et prochainement sur Angers, un nouveau lieu qui s'appelle Le Cube.
Ouais. Oui, rue Maillet.
Ah, c'est ça, rue Maillet, Le Cube, voilà. On vient de rencontrer aujourd'hui, en fait, juste avant d'arriver ici.
Tout s'enchaîne. Et donc là, c'est le premier tome. Ça veut dire que vous imaginez déjà une suite à cette histoire, que vous êtes déjà en train de l'écrire, peut-être,
ouais, ouais.
Ou que vous l'avez déjà écrite.
Les idées sont là.
Les idées sont déjà là.
On évite de se lancer dans le deuxième dès maintenant, sinon on risque de déconnecter du premier, mais les idées, il y a des pistes, beaucoup.
Voilà. Et en entendant aussi l'extrait qui est lu par une conteuse avec aussi l'habillage sonore que vous avez fait autour, on se dit très vite que ça pourrait être une histoire qui est déployée sous d'autres formats, dans d'autres disciplines, que ce soit théâtral, que ce soit de la création sonore ou radiophonique. Est-ce que ça c'est une piste aussi qui peut exister pour les gardiens de la Terre?
Oui, on a plein de projets, enfin d'idées en tête. En fait, on est tout le temps en train de découvrir de nouvelles formes de création. La modélisation 3D, création numérique, la peinture forcément. Célia, l'écriture, elle compte elle aussi. Hein. Moi, j'ose pas trop encore, mais elle le fait. Voilà. Donc, le théâtre, on commence à avoir peut-être des partenariats bientôt, donc sur Saint-Sébastien-sur-Loire, avec une dame qui travaille avec une troupe de danse celtique et qui fait un peu de théâtre. Voilà. Les pistes sont nombreuses et variées, on en parlera sur notre site. Alors attention, c'est pas la page, c'est notre site à nous, qui sera sûrement aussi.
Je ferai ça.
Ouais, voilà.
Voilà. Est-ce qu'il y aura des peluches aussi, tant qu'à faire?
On nous a évoqué l'idée de faire des peluches, mais. Voilà, je ne sais pas, c'est encore à réfléchir.
Il y aura une contrepartie qui sera une création unique, qui sera un volume, une sculpture du Melog, justement. Mais alors, il y aura ce sera unique, quoi. Il n'y en aura qu'une. Voilà.
Ouais, et là, ce n'est pas un produit dérivé, c'est une création originale. C'est un petit peu
différent. Oui, voilà. Bon, d'ailleurs, c'est déjà un peu du spoil parce que c'est censé être une contrepartie secrète, d'ailleurs, qui arrive dans quelques semaines. Mais ce n'est pas grave.
Donc, on peut déjà avoir envie d'avoir le Mélog.
Mais ça, voilà. C'est les moments de grâce de la radio, tu vois.
Oui.
Et je me suis demandé aussi. Dans ce projet de création de contes, j'ai l'impression que ce qui est quand même très important, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est la création à deux. Est-ce que c'est pas compliqué parfois, ou difficile, ou au contraire, ben moi je trouverais ça difficile de créer à deux, ou en tout cas je vous pose la question.
Moi je te laisse répondre, Célia.
Bah, on a notre univers. On est très proche dans notre façon de penser, donc pour cette écriture du conte, ça a été assez facile par rapport aux idées, aux textes, aux images. C'était vraiment dans un élan commun. Après, il y a toujours des petits moments qui peuvent être un peu plus compliqués, mais non, c'est pas notre premier projet commun et on en aura d'autres. Ça se passe très très bien. Donc voilà, c'est une très belle aventure qu'on vit à deux et on est complémentaires, comme le sont les deux personnages du livre.
J'avais pressenti une telle possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié d'aborder autour de ce conte des gardiens de la Terre ou que vous avez envie de partager avec nous ?
Moi, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui nous écoutent et déjà toutes les personnes qui nous soutiennent, oui. Que ce soit nos ambassadeurs, nos partenaires
qui sont
très présents.
On sait qu'il y en a ce soir qui nous écoutent sur Angers, justement. Donc, un gros merci à vous, déjà, à vous, parce qu'on a un très bon lancement. Hein. On arrive à 25% de la somme qu'il nous faut pour les impressions,
oui.
En à peine 3 jours, alors qu'on a 45 jours. Mais c'est loin d'être fini.
Le premier palier est à 3 500 €, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Ça, c'est pour une première version de l'édition. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à continuer à soutenir le projet, parce que ça permet d'avoir une reliure cousue, par exemple, et un livre plus agréable.
C'est ça.
Des couvertures cartonnées aussi. Enfin, il y a
exactement, oui,
plein de choses à créer. Donc ça vient d'être lancé. Waouh, bravo.
Merci.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous alliez dire d'autre, Nikita ? Je vous ai coupé.
Non, c'est le premier palier, 3 500 €, mais faut vraiment pas hésiter à aller plus loin, parce que tout simplement, en fait, nous, ce qui nous a motivé à faire ce crowdfunding, c'est qu'on voulait avoir un bel ouvrage aussi. C'est la qualité de l'ouvrage, voir les images qui sont très poussées avec un beau rendu couleur, ça fait plaisir.
Et
c'est un beau livre et à montrer, à remontrer, à partager, et c'est un support aussi pour les enfants et les adultes, c'est intergénérationnel. Voilà, pour aborder des questions environnementales très importantes.
Je vais inviter nos auditeurs, nos auditrices à aller découvrir le projet en ligne, à aller le soutenir. Donc le conte s'appelle Les Gardiens de la Terre. Il a été écrit, imaginé par Célia Coutan et Nicolas Daguerre. Je mets tout en ligne sur la page de l'Oreille Curieuse. Nikita, j'ai dit Nicolas.
Oui, c'est Nikita.
Excusez-moi, j'ai des problèmes.
Pas de soucis.
Et on va écouter un morceau de musique, car je viens de me rendre compte qu'on était en retard. Tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup,
Annie.
Merci
à vous.
Quelle sera la prochaine surprise?
Au coin de la rue, il y a des inconnus qui surgissent des poubelles qu'on peut faire.
Père, c'est ça, Halloween, rouge et noir.
Gélatine.
Quelle horreur!
C'est un enfer! Par le feu, par la glace, il faut jouer à pile ou face et s'envoler à tombeau ouvert.
C'est la ville du crime, c'est la ville du crime.
Je perds la tête, quelquefois je l'arrache.
Avant de disparaître dans un flash.
Je suis le mort qui prend longtemps.
Moi, je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars.
C'est ça, Halloween, c'est ça, Halloween, 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 Halloween,
Halloween, Halloween.
Y'a des enfants beaucoup trop sages, on préfère ceux qui ont la rage.
On fait peur,
mais on se domine
dans la ville d'Halloween.
On plaisante, on fait des bêtises, tout le monde attend la prochaine surprise.
C'est Jack le Skeleton, sans tambour ni trompette, surgit dans votre dos, vous ne ferez pas de liaison. C'est ça Halloween, c'est la vie du crime.
Bienvenue à l'épouvantable épouvantail.
Bravo Jack et la grappe, notre nouveau roi, je la garde, il est le roi.
Mais c'est cool, c'est ça Halloween, c'est ça Halloween, 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 Halloween.
C'est la vie de la nuit,
mais c'est trop chiant que les gens sourient.
L'oreille curieuse continue avec l'ambiance terrifiante de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, soyons francophones. Et on va continuer dans le cinéma sur Radio G avec des toiles plein les yeux. Bonjour Margot.
Bonjour Annie et bonjour à toutes et tous. Ce soir sera terrifiant ou ne sera pas. Alors me revoilà à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits. Et donc nous partons à la rencontre de fantômes dans un mystérieux manoir hanté perdu dans la campagne anglaise.
Je suppose que c'est un clin d'œil à cette belle fête de Halloween.
Absolument. Donc je vais vous parler maintenant du film du réalisateur britannique Jack Clayton, Les Innocents, qui date de 1961. Il s'inscrit dans la grande tradition des films d'horreur anglais, en noir et blanc, qui ont fait florès dans les années 1950 et 60. Grande maison vide, porte qui claque, parquet grinçant, couloir sombre faiblement éclairé à la chandelle, et bougie dans la flamme est soudain soufflée par un courant d'air inexpliqué. Vous voyez le topo. Pourtant, comme l'explique le critique et cinéaste Nicolas Saada dans un des excellents bonus de l'édition vidéo, le film de Jack Clayton est bien plus complexe que ça.
Les Innocents empruntent à l'horreur, mais ils convoquent en même temps des thématiques très dérangeantes sur la cohabitation des morts et des vivants, et la manière dont les morts viennent toujours perturber la vie des vivants.
Programme alléchant, n'est-ce pas ?
Effectivement, mais de quoi parle le film ?
L'intrigue est simple en apparence. Miss Giddens est recrutée pour devenir la gouvernante de deux enfants, Flora et Miles. Ils sont orphelins et habitent un beau manoir gothique loin de Londres où séjournent leur oncle et tuteur. C'est lui qui charge Miss Giddens de s'occuper d'eux. Il faut vous imaginer une femme d'une quarantaine d'années, fille de pasteur, qui porte la vertu et le sérieux dans son regard. Bref, on est assez loin de Mary Poppins. Le film s'ouvre sur l'entretien d'embauche avec l'étonnante question de l'oncle.
Avez-vous de l'imagination ?
Suite à quoi, Miss Giddens est embauchée et elle part retrouver des enfants à la campagne. Je vous propose d'écouter dès maintenant un premier extrait des Innocents lorsque la calèche de Miss Giddens la dépose devant les grilles de la propriété. Dans sa robe à crinoline, Miss Giddens traverse le parc du manoir et longe un étang recouvert de nénuphars. Au loin, on distingue une rotonde au bord de l'eau. Les lieux sont enchanteurs et l'image suit les pas de la gouvernante. La caméra passe lentement derrière le tronc d'un arbre proche du chemin, comme pour donner l'impression, un peu inquiétante, que quelqu'un, ou tout simplement nous, spectateurs, observons en cachette sa déambulation. La musique laisse la place à quelques sons de la nature. Bruissement d'oiseaux et coassement de batraciens. La caméra suit la gouvernante de loin, inscrivant sa silhouette dans le cadre luxuriant et naturel. La gouvernante continue sa marche, levant les yeux vers les arbres. Le visage de Miss Giddens se contracte légèrement. Elle arrive en vue de la rotonde isolée, la dominant depuis le sentier. Et à nouveau, elle entend... Miss Giddens se retourne et observe, le visage anxieux, l'étendue d'eau qui mène au manoir. Baissant les yeux, elle voit enfin le reflet d'une petite fille en robe blanche.
Didn't you hear? Someone is calling your name.
Tu as entendu?
No,
quelqu'un t'appelle.
I didn't kill anyone.
Non, je n'ai rien entendu.
Flora?
Tu ne t'appelles pas Flora?
Alors c'est la formidable comédienne Deborah Kerr qui interprète Miss Giddens, la gouvernante. Sa composition est fascinante, tant elle parvient, en quelques subtils mouvements du visage, à faire sentir le malaise, l'inquiétude ou l'étonnement de son personnage. Et dès ce premier extrait, le spectateur est associé à sa surprise. Lui aussi a entendu le mystérieux appel, presque susurré, alors que la jeune Flora assure, elle, n'avoir rien entendu. Cette contradiction de perception, récurrente dans le film, se retrouve dans la composition visuelle de la scène. Sur l'image en scope, c'est-à-dire très aplatie, Miss Giddens est tout à gauche et Flora tout à droite. Cette séparation visuelle est matérialisée par le bras de l'étang qui passe entre les deux personnages, chacun demeurant sur une rive face à face. Écoutons à présent un nouvel extrait des Innocents. Il fait nuit. Après ses prières, Flora s'est couchée dans la même chambre que sa gouvernante. Devant les fenêtres ouvertes, les voilages s'agitent dans le vent. La lumière diffuse de la lune éclaire la chambre. La caméra s'approche du lit de Flora. À travers les voiles du baldaquin surgit la silhouette de la fillette. Réveillée, elle se lève sans bruit de son lit, le contourne et s'approche de celui de sa gouvernante endormie. Elle s'appuie sur le pilastre du pied du lit et la contemple silencieusement. La fillette sourit doucement. La gouvernante a le sommeil agité. Le sourire de Flora s'agrandit, malicieusement suspect. Elle quitte le lit de Miss Giddens et s'approche des fenêtres ouvertes. Elle repousse les voilages et baisse le regard vers l'extérieur. En contrebas, un cercle de sculptures de pierre blanche éclairé par la lune. Des feuillages remuent dans le vent. La fillette commence à fredonner. Elle parcourt des yeux le jardin, semblant chercher quelque chose. Son regard s'arrête et un léger sourire se dessine sur son visage. Qu'a-t-elle vu? À l'image, le corps endormi de Miss Giddens laisse progressivement la place au jardin du manoir, avec ses statues énigmatiques. Est-ce un rêve ou simplement une ellipse temporelle? Dès son arrivée, Miss Giddens apprend qu'elle remplace la précédente gouvernante, très proche de Flora, et disparue tragiquement. Si le manoir est censé n'héberger que quelques personnes, la gouvernante, une cuisinière, les deux enfants et deux autres domestiques, Miss Giddens ressent rapidement d'autres présences inexpliquées. Avant d'écouter un nouvel extrait, j'aimerais revenir sur le scénario des Innocents. Celui-ci est adapté d'un livre de Henry James. Le critique et réalisateur Nicolas Saada revient sur cette adaptation signée par Truman Capote.
Dans le roman, l'histoire est racontée par des gens. Truman Capote renonce à passer par ce filtre-là. La narration dans le film est plus directe. Elle est aussi complètement cinématographique, parce que Capote a réussi à trouver des équivalences très visuelles et très poétiques au roman.
Le fondu enchaîné entre deux séquences, ou la musique délicatement entêtante, en sont des exemples. Mais il y en a bien d'autres. Écoutons à présent un nouvel extrait. Nous sommes en plein jour. Le noir et blanc de l'image est très contrasté. Miss Giddens cueille au sécateur des roses blanches éblouissantes. La comptine fredonnée par Flora hante la gouvernante, comme pour annoncer une nouvelle manifestation étrange. Le visage de Miss Giddens se crispe. Elle écarte le rosier, se penche et découvre derrière les fleurs une statue abîmée d'un bambin souriant. De ses lèvres sort soudain un coléoptère noir, hideux. Le visage de la gouvernante exprime sa surprise, son dégoût. Elle se redresse soudain. Le temps semble s'arrêter. La musique s'est tue. Ce silence étrange devient oppressant pour la gouvernante. Elle tourne et retourne son visage, comme si elle se débattait contre une force invisible. Elle écarquille les yeux, puis les relève lentement vers le ciel. Au-dessus d'elle, se détachant dans la brume, la tour gothique du manoir. Une silhouette masculine se tient sur le rempart, comme pour observer le parc. Miss Giddens est éblouie par la lumière. Des tourterelles volent autour de l'homme de la tour. L'inquiétude gagne la gouvernante. Elle en laisse tomber ses ciseaux dans un petit bassin. Elle se dirige vers la tour, freinée par une porte en fer forgé qui la sépare temporairement de ce mystère. Les yeux toujours levés, elle traverse le jardin en direction de la tour. À mesure qu'elle s'approche, les tourterelles blanches sont de plus en plus nombreuses. Levant à nouveau les yeux vers la tour, elle s'aperçoit que la silhouette a disparu. Troublée, Miss Giddens fait le tour de la terrasse du manoir. La caméra la suit le long des fenêtres closes, jusqu'à une porte-fenêtre entrouverte. À l'affût d'un bruit ou d'une présence suspecte, la gouvernante s'arrête. Puis elle reprend son inspection et découvre une porte en retrait de la terrasse, cachée par des buissons et plantes grimpantes luxuriants. Elle pénètre dans une pièce poussiéreuse. Cette pièce est de dimension carrée, bordée par un escalier qu'elle emprunte. Levant les yeux, Miss Giddens contemple le labyrinthe de l'escalier, métaphore très visuelle de l'intrigue du film. Elle débouche en haut de la tour. À genoux, Miles caresse ses tourterelles blanches.
Miles, how long have you been here?
Depuis quand es-tu là, Miles?
À son tour, le frère va nier avoir vu l'homme de la tour. Il met plutôt en garde sa gouvernante contre son imagination. À l'image, on le voit pourtant sourire largement. La réussite de cette scène, qui n'est pas sans évoquer le comte de Barbe Bleue avec sa haute tour, tient à ce qu'elle provoque l'inquiétude même en plein jour et continue d'instiller le doute chez le spectateur. Cette ambiguïté naît de cette vision énigmatique, de l'éclairage éblouissant et presque surnaturel, et des effets très subtils sur la bande-son, qui mêle musique inquiétante, mélodie dorénavant suspecte, et bruitages naturels qui en deviennent effrayants. Le scénario du film multiplie ces séquences qui tiraillent la réalité. L'organisation d'un faux anniversaire, de nombreuses discussions ambivalentes.
Ce qui s'est passé l'autre soir, oubliez-le. Faites comme si vous aviez rêvé.
Ou bien...
Faites comme si de rien n'était, pour ne pas se faire d'idées. Mais parfois, on ne peut s'empêcher d'imaginer des choses.
Et puis, il y a les apparitions, de plus en plus nombreuses, de fantômes menaçants, auxquels seule Miss Giddens semble être sensible. Tout se passe comme si, à divers degrés, le réel s'effondrait pour faire place à un entre-deux énigmatique. Et comme le note Nicolas Saada,
Jack Clayton travaille le fantastique comme l'irruption de quelque chose qui dérange le quotidien. C'est le thème majeur des Innocents.
Ainsi, l'horreur repose sur la suggestion, et donc la possibilité pour le spectateur de croire à certaines choses et de douter d'autres. La beauté vénéneuse et fascinante du film de Jack Clayton, c'est de cultiver l'ambiguïté des personnages, adultes et enfants, et de tailler régulièrement une nouvelle face sur le diamant noir de l'intrigue. Est-ce une histoire de fantômes, ou bien les fantasmes d'une bigote? Ou bien une mente religieuse pervertie dans son sens du devoir, au point de vouloir dévorer les enfants dont elle a la responsabilité? Quelle est la part d'ironie du titre? Flora et Miles sont-ils uniquement d'innocentes victimes d'un monde d'adultes pervertis? Ou incarnent-ils une forme de monstruosité de l'enfance? La force du film, c'est bien sûr de laisser chaque spectateur en décider.
We lay, my love and I, beneath a weeping willow, but now alone I lie, and we...
On se quitte en écoutant la mélodie du film, qui donne un peu la chair de poule avec cette voix enfantine presque d'outre-tombe.
Les Innocents, un film réalisé par Jack Clayton, est sorti en salle en avril 1962.
Le film est disponible en version restaurée dans une très belle édition DVD et Blu-ray qui propose des bonus passionnants. Je vous recommande notamment l'entretien avec le réalisateur Nicolas Saada, dont nous avons cité plusieurs extraits ce soir. Éditeur Potemkin.
Merci beaucoup Margot pour cette nouvelle chronique d'étoiles plein les yeux. Nous sommes très en retard et c'est ma faute. En tout cas, moi, elle m'a glacé le sang. Je vous souhaite une très belle soirée d'Halloween aux personnes qui le fêtent, qui vont aller demander des bonbons ou juste se faire plaisir à se faire peur. On se retrouve lundi à 18h10 dans l'oreille curieuse. D'ici là, si vous avez envie de réécouter l'émission, si vous avez raté un élément, sachez qu'ils seront en podcast sur le site de l'émission www.radio-g.fr à la page de l'oreille curieuse. Très bonne soirée. À 19h, vous retrouvez Solidaire Monde. À lundi.